Tous les dimanches sont un culte de Pâques. Si nous sommes ici, si nous nous rassemblons, c'est parce que Jésus est ressuscité et parce que nous entrons dans cette résurrection avec lui. J'aimerais ce matin, pour le temps de prédication, continuer de lire dans l'évangile de Luc. Je dis continuer parce que vendredi soir, on a lu l'évangile de Luc, le texte de la Passion. Ce matin, on a lu le texte de la résurrection dans l'évangile de Luc. Et là, au chapitre 24, il y a un récit qui se trouve que dans l'évangile de Luc, ou en tout cas sous cette forme développée. C'est celui qu'on appelle des pèlerins d'Emmaüs. Donc, Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont les propos que vous échangez en marchant ? » Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ? » Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques saints de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : « Que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils s'approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ? » Ils se levèrent. À ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement réveillé, il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils s'étaient fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Voilà pour notre lecture ce matin. C'est un récit connu que celui des deux pèlerins, et pourtant, en le relisant, je me disais qu'il est vraiment particulier. Il est particulier parce que deux disciples anonymes, enfin il y en a un, on connaît son nom, c'est Cléopas, mais bon, c'est le seul endroit du Nouveau Testament où on parle de lui, donc on ne sait pas trop qui c'est. Et Jésus se manifeste à eux. Jésus ne se concentre pas uniquement sur les onze, c'est-à-dire les douze moins Judas Iscariote, celui qui a traduit. Il est généreux. Et j'aime la générosité de Jésus qui prend aussi ce temps avec ses deux disciples sur la route, sur le chemin. Le texte nous dit ce même jour. Ce même jour, il s'agit du dimanche de la résurrection, vous l'aurez compris. Le troisième jour, Jésus a été crucifié le vendredi. Et le troisième jour, le dimanche, eh bien, il y a ces événements. On ne trouve plus son corps. Pour ces deux disciples, c'est fini. Eux, ils rentrent. Ils rentrent à Emmaüs et j'ai l'impression en lisant le texte que c'est chez eux. Ils ne rentrent pas dans une auberge, mais ils vont chez eux. Un village qui se trouve, le texte nous dit, à 60 stades de Jérusalem, c'est-à-dire 11 kilomètres. C'est pas rien. 2h30 de marche à peu près. Et pendant qu'ils marchent ensemble, ils reviennent sur ce qu'ils ont vécu. Sur ce traumatisme qu'a été la mort de leur maître, de celui qu'ils ont suivi, de celui pour qui ils ont quitté leur maison. Et là, il y a quelqu'un qui se joint à eux, ils ne le reconnaissent pas, mais c'est Jésus. Et Jésus, il a cette question un peu étrange. De quoi parlez-vous ? C'est étrange, c'est tellement étrange que Cléopas dit « Mais t'es le seul qui ne sait pas de quoi on parle ? T'es le seul qui ne sait pas de quoi on s'est passé ? Ce qui s'est passé ?» Je ne crois pas que Jésus soit en train de jouer avec eux. Je pense qu'il est important qu'il formule quel est le problème. Et le problème, c'est pas seulement que Jésus est mort. Le problème, Cléopas le dit, nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Nous espérions. Nous espérions que ce serait lui qui rachèterait Israël, que ce serait lui qui viendrait le libérer, qui viendrait éliminer les nations étrangères qui nous occupent, qui viendrait éliminer tout ce qui nous empêche d'avoir notre culte, de célébrer le culte à Dieu dans son temple. Nous espérions qu'il viendrait nous délivrer. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Et on voit en creux ce que c'est leur espérance. C'est leur espérance d'un leader qui vient, qui est écouté, qui rassemble autour de lui. Un prophète puissant, en acte et en parole. Et la semaine dernière, c'était le dimanche des rameaux, il est rentré à Jérusalem et tout le monde est venu pour l'acclamer. Ça y est, c'est parti, ça commence, ça prend. On va réussir, on va changer le monde. Et une semaine plus tard, c'est la douche froide, il est mort. La déception immense. Voilà ce qui les embête. Ils pensaient vraiment que le succès prendrait. Mais Jésus a ces paroles que vous êtes lent à comprendre. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Et là, il y a ce moment qui est fabuleux. Pendant 2 heures, Jésus a donné un cours de théologie de l'Ancien Testament. Le Verbe incarné a expliqué ce que tout voulait dire mieux que personne ne peut le faire. Et ces deux disciples ont pu bénéficier de, du cours, non pas du maître absolu, mais de celui qui est la parole. Et il leur a tout expliqué. Depuis Moïse jusqu'au prophète, dit le texte, Moïse c'est le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, etc., jusqu'au dernier prophète. Et quand vous lisez bien, leur dit-il, il fallait que ça se passe comme ça. C'est pas normal, c'est pas des choses qui arrivent. Non, il devait souffrir de la sorte, c'était un passage obligé. Pourquoi devait-il souffrir? Pourquoi devait-il souffrir? Il devait souffrir parce que le problème, ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les envahisseurs. Le problème, c'est le péché. C'est pour ça que Israël a été envahis, occupés, déportés, que quand ils sont revenus, ils ont été occupés à nouveau. Ce n'est pas parce que les nations autour sont plus fortes et qu'ils ont besoin d'un leader. Dieu leur a dit, si vous obéissez à ma loi, si vous me suivez, je vous protégerai. Et c'est parce qu'ils se sont éloignés. C'est parce qu'ils ont péché. Il y a aussi la nécessité du sacrifice. Face au péché, il faut payer. La culpabilité ne peut rester sans le paiement de la faute, sans la punition. Mais surtout, je crois, il devait souffrir pour montrer l'obéissance ultime. L'humanité est venue d'Adam qui n'a pas su obéir. Christ est celui qui a obéi à Dieu jusqu'au bout. Et c'est facile d'obéir quand les choses sont faciles. Mais quand on est arrêté, torturé, mené à la mort en toute connaissance de cause, ça c'est l'obéissance ultime. Il ne s'est pas rebellé. Il a vécu cette obéissance pour ouvrir une nouvelle ère, une nouvelle humanité. Il fallait qu'il souffre de la sorte. Je vous invite à faire une pause dans la prédication et chanter un chant qui nous rappelle la souffrance, l'obéissance de notre Seigneur. Et peut-être vous pouvez rester assis pendant que nous le chantons. Notre récit ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à l'explication théologique de ce que le Messie était venu faire. Mais après ce temps, ces 2 heures passées en sa compagnie, ils le reconnaissent, finalement. Comment le reconnaissent-ils? C'est amusant, hein? Il leur a parlé comme personne ne parle, marché avec eux, ils ne l'ont pas reconnu, mais quand il s'assoit avec eux et qu'il rompt le pain, qu'il partage le pain, qu'il prie pour remercier, alors ils le reconnaissent. Je peux comprendre qu'ils ne le reconnaissent pas, ils étaient tellement persuadés qu'il était mort. Mais c'est intéressant en même temps que de voir ce qui fait tilt chez eux. C'est ce pain partagé, ce temps partagé avec eux. La prière de remerciement à Dieu. Et quand ils le reconnaissent, il disparaît à leurs yeux. Mais là, tout change. Ils se rendent compte de l'enthousiasme qu'ils ont. Et j'aime cette parole qu'ils se disent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures? Est-ce que vous avez déjà connu ce feu en vous? Moi, je l'ai connu. Moi, je l'ai connu à plusieurs reprises, en lisant l'Écriture, en la voyant, en l'entendant m'être expliquée. Je l'ai vu aussi dans le rôle inverse, en l'expliquant à d'autres, à des gens qui venaient me voir et avec qui on ouvrait la parole ensemble. La parole nous donne la vie. Elle fait brûler notre cœur. Elle nous donne l'enthousiasme. Alors ils ne peuvent pas rester sur place. Ils viennent de marcher 2h30, 11 km, ils repartent dans l'autre sens. Il fait nuit, ce n'est pas grave. Quand ils ont cette bonne nouvelle, ils ne peuvent pas la garder pour eux. Il faut qu'ils reviennent en arrière, qu'ils aillent voir les autres et qu'ils la partagent avec eux. Une telle nouvelle ne peut être gardée pour soi. C'est pour ça que je suis heureux de partager ce culte avec vous ce matin. Et il y a de la place auprès de Jésus. Il y a de la place pour nous tous, mais pour d'autres encore. Nous pouvons partager cette nouvelle, cette bonne nouvelle. Il est ressuscité. Et cette résurrection, même si elle a eu lieu il y a longtemps, elle est encore valable aujourd'hui. Ceux qui le suivent vivent de cette vie nouvelle. Ils ne sont plus accusés. Tu ne fais pas assez bien. Tu n'es pas à la hauteur. Tu es moins bien que les autres. Non. C'est fini. Ils sont adoptés par le Père en Jésus-Christ. Invités à se rassembler et à former un corps nouveau, une entité nouvelle. C'est ce qu'ils font. Ils se retrouvent ensemble. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, attendant le retour de Jésus. Finalement, je comprends un peu. Pourquoi c'est à ce moment-là, au moment où ils partagent le pain, qu'ils le reconnaissent? Ils reconnaissent que Jésus voulait qu'ils soient ensemble, partagent ces repas ensemble, vivent cette communion, vivent ce corps. C'est ce que nous allons faire à présent. Partager le repas du Seigneur, la Sainte Cène. Voilà. Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Il fallait se retrouver. Cette bonne nouvelle que nous avons, ce n'est pas pour la vivre tout seul, individuellement. C'est pour la vivre ensemble.